Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le soir d'Halloween, Apple a présenté d'une dans sa keynote sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, M3 Pro et M3 Max. Honnêtement, rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent. En réalité, Mathieu, derrière le développement de ces puces Apple Silicon, il y aurait quand même une stratégie cachée dont peu de personnes ont parlé. Alors pourquoi est-ce que Apple développe ces puces? Est-ce qu'ils sont vraiment derrière la fabrication de ces puces? Quel est l'intérêt pour le produit et l'utilisateur final de mettre en avant des M3 qui sont un tout petit peu meilleurs? Tu vas nous parler de ça.
Ouais, et comme tu le disais, en regardant les annonces d'Apple lors de sa keynote, ça m'a même un peu surpris qu'ils fassent une keynote pour ça. Parce que globalement, si je résume, ils ont annoncé leur nouvelle gamme de processeurs M3 gravés en 3 nanomètres. Certes, c'est les seuls à proposer des processeurs en 3 nanomètres, on va y revenir. Ils ont annoncé des nouveaux MacBook et des iMac avec cette nouvelle gamme de processeurs, mais pas grand-chose de plus. Et c'était fini, ça a duré une 30 minutes. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour avoir suivi les conférences, les keynotes d'Apple il y a 5-7 ans, ils n'auraient pas fait une keynote juste pour ça. Ils auraient mis à jour les MacBook et les iMac sur le store, mais ils n'auraient pas fait une annonce. Après, je comprends, ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé ce qu'on appelle Apple Silicon, donc le fait de faire leur propre processeur pour ordinateur, ils le faisaient déjà pour les iPhones. Et ils veulent mettre en avant ces nouveaux Mac et MacBook. Et ça marche bien, le MacBook marche super bien.
J'ai dit que tu as oublié quand même la couleur noire sidérale. Je te trouve
pardon,
un peu dur.
Pardon. C'est vrai qu'elle est belle. En plus, c'est vrai qu'elle est jolie. J'ai oublié la couleur noire sidérale. Non, mais ça m'a vraiment laissé en demi-teinte parce que je me dis à quoi ça sert de faire une annonce pareille. Mais moi, j'y ai quand même trouvé une petite raison et je vais y revenir. Mais juste avant, pour vous expliquer ça, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne un processeur. Donc on va revenir un tout petit peu à la base du fonctionnement d'un processeur. Un processeur, déjà, c'est méga complexe. C'est vraiment très complexe. Et il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer des processeurs. Et même pour Apple, qui possède des milliards de dollars, c'est très compliqué. Et vous allez voir que c'est bien plus compliqué que ce que vous pensez. Un processeur, c'est avant tout un semi-conducteur, donc c'est un matériau dont on va pouvoir contrôler le fait qu'il conduit ou pas l'électricité. Et le fait qu'il conduit ou pas l'électricité, ça va permettre de faire des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle le dopage, le semi-conducteur. Le dopage, en fait, c'est ce qui contrôle la conductivité du semi-conducteur. Et c'est ce qui va créer les transistors qu'il y a par milliard dans un processeur. Et c'est ça qui fait les calculs d'un ordinateur. Il n'y a pas eu l'illustration, mais globalement, un matériau pour faire des semi-conducteurs très connu, c'est le silicium qui vient comme ça un peu sur des... C'est ce qu'on appelle des wafers. C'est un wafer de silicium. Donc c'est une plaque de silicium sur laquelle on vient faire les processeurs. Et en fait, les 3 nanomètres, c'est la fine couche de gravure. Et c'est la taille d'un atome d'hydrogène. Ouais. d'oxygène, je crois. Vraiment, qu'un cheveu, c'est 80 000 nanomètres à côté. Donc... pour se dire qu'il y a des machines aujourd'hui qui sont capables de graver des plaques de silicium avec une finesse de 3 nanomètres, je peux vous dire que c'est pas ta grand-mère qui va faire ça dans son garage, ni même le petit inventeur du coin.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait? Parce qu'on peut se dire, bon, faut un truc suffisamment pointu, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment compliqué?
Alors, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, c'est que la machine qui permet de faire ça, il y a globalement 3 sociétés dans le monde, je fais un petit aparté, mais ouais, c'est très bien, qui sont capables de faire ça. Il y a une société, c'est AS... Alors, il faut que je retrouve son nom.
TSMC ?
Non, c'est pas TSMC. ASML.
OK.
Voilà, exactement. Ça, c'est une machine qui permet de faire des processeurs. Ça a la taille d'un bus. Ça coûte 160 millions de dollars. Ouais. Et c'est fait par ASML. C'est une société aux Pays-Bas qui est sans doute une des sociétés les plus importantes au monde parce que c'est la seule machine capable de graver en 3 nanomètres à l'heure actuelle.
Il n'y a que TSMC qui en a. On y reviendra.
C'est dingue.
Et ils ont à peu près 80% du marché des machines. Donc, c'est des machines à lithographie ou photolithographie qui permettent en fait de graver ces processeurs avec une finesse aussi importante.
Et donc, Apple ne le fait pas eux-mêmes. Quand on dit ils font leur propre silicium, en fait, non. Enfin, Apple, ils font la puce.
Apple est incapable de produire et de fabriquer aucun processeur. Ils la conçoivent, ils l'ingénierient, ils la design, si vous préférez. Mais ils ne fabriquent absolument aucun processeur. Les concurrents de ASML, c'est Nikon et Canon, mais ils sont assez en retard. Donc, c'est quand même deux gros puissances japonaises. Mais je crois que c'est quasiment les trois seules sociétés. Il y en a d'autres, mais en tout cas, qui sont capables de faire des machines à lithographie modernes. Et ASML, on pourrait en faire une chronique dédiée, parce que c'est une entreprise absolument incroyable, paumée aux Pays-Bas, et qui, sans eux, toute l'industrie des semi-conducteurs s'effondre. Sauf qu'à la base, donc ça c'est pour remettre un peu dans le contexte, mais à la base, nous ce qu'on connaît de semi-conducteurs, c'est Intel. Intel, ils conçoivent leurs processeurs, ils les fabriquent, ils les vendent même en leur nom, Intel. Il y a Samsung qui le fait également. En France, il y a ST Microélectronique qui est un peu connu, installé vers Grenoble. C'est des acteurs historiques. Et puis, il y a un moment, il y a eu un changement qui littéralement a tout changé dans le monde des semi-conducteurs. En fait, il y a commencé à avoir une séparation entre les gens qui conçoivent les processeurs et les gens qui les fabriquent. On a appelé ça des fonderies pour les entreprises qui les fabriquent, et on a appelé ça des entreprises fabless, donc sans usine, pour ceux qui conçoivent les processeurs. Intel n'a pas fait ce choix. Ils sont restés dans le fait de produire toute la ligne, parce que ça paraît cohérent. Voilà, tu conçois un processeur jusqu'à le vendre. Et c'est vrai que le choix n'était pas bête. Et en fait, c'est un peu l'autre choix qui l'a emporté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des fabless d'un côté et des fonderies de l'autre, à tel point que AMD, concurrent d'Intel et qui fait des puces, a revendu sa part de fabrication, donc la fonderie.
Oui, d'accord.
C'est devenu Global Foundries.
D'accord.
Et AMD, maintenant,
ils ont coupé
désormais, c'est un fabless.
D'accord.
Qui, donc, du coup, conçoit ses processeurs et après va voir une fonderie. Et maintenant, vous nous les fabriquez. Ces fonderies achètent des machines à 160 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Et c'est eux qui font les processeurs.
Est-ce que, alors, si ça se trouve, tu n'en as aucune idée, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais juste au cas où, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi dans la précision de la gravure qui choque tout le monde, hein, parce que le fait que tu aies besoin d'un bus pour faire un truc plus petit qu'un cheveu, c'est quand même, ça paraît assez dingue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire sur les 3 nanomètres où en fait c'est tellement petit que tu viens à être emmerdé par les interactions faibles il me semble qu'en gros, ça participait à la complexité de concevoir des puces aussi précises. C'est que qu'en gros, tu as des problèmes à l'échelle quantique qui te créent des erreurs dans tes calculs parce que tu as des interactions entre tes transistors.
Alors, j'ai pas la réponse exacte à ça parce que ça me dit un truc, cette histoire de problème quantique. Moi, ce que je sais, c'est que la gravure en 3 nanomètres a pris un petit peu de retard parce qu'en fait, c'est une chose d'arriver à le prouver, mais c'est une autre chose d'arriver à l'industrialiser. Typiquement, je crois que Samsung l'avait fait avant TSMC, donc un grand une fonderie très connue à Taïwan qui est aujourd'hui leader du marché. Mais en fait, c'est TSMC qui a réussi à le faire en premier parce qu'ils ont réussi à l'industrialiser plus vite. Mais en effet, donc ça pose des problèmes. J'ai pas exactement la réponse sur le quantique. Par contre, j'ai une réponse sur une machine. En fait, ce fameux fabricant de TSMC qui du coup travaille avec Apple et Apple travaille exclusivement avec TSMC, en fait a fait le pari d'une machine d'ASML de nouvelle génération vers les années 2019. Et cette machine, j'essaie juste de retrouver son nom. C'est la machine EUV pour extrême ultraviolet. Et en gros, il n'y a que cette machine aujourd'hui qui est capable de faire du 3 nanomètres. Donc Intel va être bientôt capable, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette capacité-là. Et Nikon et Canon sont, entre guillemets, un peu à la ramasse. Et c'est une machine, mais genre pour faire le laser, il faut 457 000 pièces. Enfin, c'est de l'ingénierie qui dépasse l'entendement. Bon, ça, c'était pour le petit aparté de cette machine en particulier.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Eh ben, on peut revenir sur le modèle. Donc, on a d'un côté des fonderies. Donc, j'en ai parlé, TSMC à Taïwan, qui s'est lancé. UMC en Corée, Global Foundry aux États-Unis. Et de l'autre, je parlais des fabless, vous allez reconnaître des noms. Qualcomm, fabless, ils font ces puces, mais ils ne les fabriquent pas. Qualcomm ne sait pas fabriquer.
C'est vrai, c'est marrant.
Ah non, tous les Qualcomm, c'est ceux qui tous les téléphones Android. C'est ils ont un modèle de, on conçoit les puces.
D'accord.
C'est pas eux qui les fabriquent. Je sais qu'eux ils distribuent, ils en donnent à Samsung, ils en donnent à TSMC, ils en donnent potentiellement à d'autres acteurs également. C'est la même chose pour Nvidia. C'est la même chose pour Xilinx, qui est connu pour ceux qui font du système embarqué ou qui minent des crypto-monnaies aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils utilisent des cartes Xilinx. Et AMD donc qui est devenu fabless. Et évidemment, Apple. Quand ils se sont dit, OK, potentiellement, il faut qu'on prenne notre indépendance vis-à-vis d'Intel, parce qu'ils nous bloquent dans le fait de développer des Macs qui soient intéressants pour le grand public, ils se sont dit, bon, on va faire comme l'iPhone, on va faire nos propres processeurs. Ils ne fabriquent pas leurs propres processeurs, ils n'ont absolument aucune usine. C'est un fabless, donc un fabricant sans usine, qui a un contrat avec TSMC pour fabriquer ses processeurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est déjà à deux strates. Donc, Intel fait tout d'un coup. Là, on est à... Il y a quelqu'un qui conçoit le processeur, qui le design en fonction de ses besoins. Apple, par exemple, ses besoins, c'était d'avoir un rapport performance-watt qui soit leader du marché. Et en gros, leur ligne de route, c'est pas forcément de faire les meilleurs processeurs, c'est de faire des processeurs performance par watt qui soient imbattables. Ils l'ont très bien testé avec l'iPhone.
Ouais.
Ça marche avec le Mac. Et en fait, il y a un troisième acteur, c'est ARM. Parce que ces processeurs en Mac, on dit que c'est des architectures ARM. En fait, ARM, c'est une licence. Il faut payer le droit de pouvoir concevoir un processeur. Et donc, ce n'est pas l'architecture Intel x86, c'est l'architecture ARM qui est vendue à un fabless qui développe son propre processeur, par exemple l'Apple M3. Qui demande à un fondeur de faire ses Apple M3, M3 Max, M3 Pro, et qui va enfin se terminer dans nos MacBooks. Et donc ça, c'est toute la chaîne qui, pour Intel, en fait, de base, était une seule chaîne. Mais en fait, ils l'ont découpée en trois gros morceaux.
Moi, je m'étais demandé un moment, pourquoi est-ce que Apple utilisait une architecture de processeur qui était connue, pour laquelle ils devaient payer une licence plutôt que de faire comme à l'époque où vous avez co-créé le PowerPC.
Ouais, avec IBM.
Et je me demandais pourquoi pas revenir à l'ancienne et faire leur propre truc. J'ai regardé un petit peu, on ne sait pas exactement, évidemment, mais c'est plausible qu'en fait la licence AMD, enfin la licence ARM, soit pas trop chère et qu'en fait, juste ce que tu gagnes en nombre d'années, en outillage, parce que ARM c'est ultra, ultra testé et développé. Et enfin voilà, t'as énormément d'outillage pour ça, prendre un truc qui a déjà fait ses preuves en fait sur des millions et des millions d'appareils, de devices, où justement en performance par watt, t'as un ratio qui est abusé. En fait, apparemment, le calcul est vite fait entre faire ta propre architecture versus utiliser ARM en fait.
Ouais, et alors ça va peut-être être un poil barbu et au pire on coupera de la VOD, mais ARM est une entreprise britannique et à mon avis, eux ils vendent juste leur licence. Bon, je suppose qu'il y a un travail derrière, mais aujourd'hui, ils doivent vraiment se faire des couilles en or, si je peux me permettre. Et donc, je pense qu'elle est pas bien chère, peut-être même comparée par Intel. Et il y a des pays, notamment pour la souveraineté, la Russie et la Chine, qui essayent de développer leur propre jeu d'instruction. Donc, pour pas dépendre d'un acteur américain, notamment. Et en fait, pour l'instant, ils se basent beaucoup sur des choses qui existent. Les Chinois, ils se sont basés sur MIPS, qui était un jeu d'instruction américain. D'autres, ils se basent sur ARM, parce qu'en fait, c'est quand même des choses super dures,
Mais comment tu sais ça?
Alors de base, ça m'intéresse et je l'ai un peu étudié. Et de deux, j'ai un peu étudié le sujet. Mais d'ailleurs, on verra peut-être que si
le
ça
gars m'intéresse...
connaît
toutes les architectures de processeurs.
Non, pas tous. Mais il y en a une qui est super intéressante et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle RISC-V et c'est un jeu d'instruction qui est open source et libre, que tout le monde peut utiliser. Et du coup, tous les Russes, les Chinois et tout s'intéressent beaucoup parce qu'ils disent, tiens, on peut peut-être utiliser ce jeu d'instruction. C'est un jeu d'instruction qui a été développé par l'université de Berkeley pour des raisons de recherche, pour l'enseignement, des études. Et en fait, de plus en plus, les industriels se l'accaparent. C'est encore un peu jeune. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vrai ordinateur. Je crois qu'il y a un Raspberry Pi-like qui s'appelle... Star 64 Vous checkerez. Je dois l'avoir quelque part. Mais c'est un jeu d'instruction super intéressant. Il est pour l'instant utilisé surtout en système embarqué. Et peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, quand je dis système embarqué, dans les objets connectés, etc. Peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, dans des ordinateurs. Je sais que la communauté Rust s'intéresse à RISC-V pour faire un Rust OS. Non, mais il y a des choses. Linux tombe déjà sur RISC-V. C'est un sujet RISC-V qui me passionne, on pourra en reparler, okay, mais okay. J'ai une chronique à finir.
Ouais. Comme dirait-il, l'odeur de cette discussion.
Ouais, non, mais ça sera coupé, ça.
Tu connais cette nouvelle architecture de processeur?
Non, mais tapez RISC-V dans Google et perdez 3 heures comme moi, voilà.
Je dis ça, mais en plus, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Oui, je fais de l'assembleur en ce moment.
PTDR.
Voilà, bon, bref.
Ok, on va revenir aux raisons de. Les raisons qu'on fait que Apple. Je vais réussir à faire cette phrase. Pourquoi Apple s'est lancé dans la fabrication de processeurs pour ses ordinateurs? Ce n'est pas un choix anodin, comme on l'a vu, c'est super dur de devoir de fabriquer un processeur. Et même en étant fabless, de base, Apple, il vend des produits au grand public, il ne vend pas des processeurs. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, je l'ai déjà dit, essayer de prendre son envol par rapport à Intel, qui devenait bloquant, même sur la supply chain, la logistique, c'était une dépendance trop forte, selon eux, pour garder cette dépendance vis-à-vis d'Intel. Deuxième choix, le fait que... et je vais retrouver ma note. Pardon. Deuxième choix, c'est pour la stratégie d'intégration verticale, comme on dit. Apple, ça, l'a toujours fait. Ils aiment bien contrôler tout le matériel, tout le logiciel. Quasiment tout est Apple. Il y avait un composant dedans qui n'était pas Apple, qui était Intel. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on va dire un composant phare. Et aujourd'hui, quasiment le hardware, le processeur, l'OS, les applications développées, tout ça est Apple. Et en fait, c'est vraiment la stratégie de pouvoir tout contrôler et du coup d'être plus efficient, plus efficace. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a une dernière stratégie. Et puis, j'ai vu des gens documenter un petit peu cette stratégie que je trouve très intéressante. C'est qu'en fait, ils prennent un contre-pied vis-à-vis de l'IA. C'est marrant parce que t'en as parlé dans ta chronique.
Oui, il n'y a pas d'IA. Tout le monde s'attend, honnêtement.
Apple.
Tout le monde est là en mode, mais quand est-ce qu'ils annoncent des trucs?
Ne parlent jamais d'intelligence artificielle et de LLM, ou très très peu. Et quand ils en parlent, c'est pour des fonctions dans l'iPhone. Ils disent powered, comment on dit,
assisté
ouais. par IA, les suggestions sur votre iPhone, l'auto.
Mais rien que les photos.
Ouais.
Les photos. Mais ils en parlent très peu, alors que tous les actionnaires, y compris, je me souviens, pour l'Apple Vision Pro, lors de la keynote de l'Apple Vision Pro, s'attendaient à des annonces en termes de LLM, tellement c'était incontournable, en fait, pour un géant, pour un GAFAM, pour un géant de la tête, de ne faire aucune annonce.
Mais ouais. Surtout, le plus curieux, c'est pas que ça les intéresse pas. Évidemment que ça les intéresse de fou. Il n'y a qu'à voir leur contribution GitHub et ce qu'ils font en fait dans les coulisses pour savoir que non, mais en fait, ça les intéresse. Du coup, c'est encore plus étonnant qu'ils n'en parlent pas, quoi.
Et en fait, ils en parlent, mais très certainement, même c'est sûr, ils en parlent à travers leur nouvelle puce M3. Et moi, ce qui me fait que c'est un point d'importance qu'ils aient présenté ça lors d'une keynote, sans doute pas le seul point, c'est le fait qu'en fait, dans ces puces, tout est intégré, c'est des systèmes on-chip. Il y a ce qu'ils appellent, eux, Neural Engine. Donc, c'est un processeur d'intelligence artificielle, un NPU, comme on l'appelle, Neural Processor Unit, qui est là pour assister dans les fonctions
d'IA, prédiction de modèle.
De prédiction. C'était déjà le cas sur l'iPhone. Ça va arriver sur le MacBook. Et en fait, le fait que Apple contrôle ses logiciels, son hardware et le silicium, ses processeurs, ça lui confère un avantage dans l'intelligence artificielle, parce qu'au lieu qu'ils investissent à fond dans des immenses data centers avec des Nvidia H100, H1000, je ne sais plus, ouais. pour entraîner des gros LLM, en fait, ils vont amener l'IA on-device, le machine learning on-device, comme ils appellent. Ils amènent l'IA au niveau de la machine et donc de ce qu'ils vendent. En fait, c'est logique pour eux. Et en fait, les traitements IA, eux, ils comptent sur ces processeurs-là pour les traiter. Plus le fait qu'il y a des gens qui ont essayé d'entraîner des LLM sur des grosses machines de travail avec des M2 Ultra, qui est leur version méga boostée, et que ça marche super bien. Et pourquoi ça marche super bien? Aussi parce qu'ils ont une mémoire unifiée. C'est-à-dire que dans leur système on-chip, ils ont tous leurs composants, le GPU, le NPU, le CPU, et ils ont une mémoire qui sert à tout. Et dans le M2 Ultra, je ne sais plus combien il y a de gigas de mémoire unifiée.
Ça monte à 190 à peu près gigas de mémoire unifiée.
Alors, ça n'empêche qu'ils ont sans doute des data centers pour entraîner des gros modèles à côté et qu'ils travaillent là-dessus.
Surtout, c'est de l'inférence.
Ouais, exactement.
C'était pas de le. Bah oui.
Pas aller jusque-là, mais vas-y.
Bah, si, parce que en fait, entraîner un modèle où le faire parler exactement, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Et pour l'instant, la question de l'entraînement de modèle est non résolue en fait sur les Apple Silicon.
Ouais.
Mais par contre, l'inférence, qui est le truc qui intéresse 99% des gens en fait, c'est utiliser des modèles d'IA. Comme tu dis, sur les machines d'Apple, elles ont un avantage compétitif du fait de cette mémoire unifiée qui est absurde en fait.
Ouais.
Parce que quand vous avez votre super PC gamer avec 64 Go de RAM, mais qu'en fait votre GPU il a que 6 Go de mémoire vive, vous faites tourner rien du tout et rien du tout. Alors que là, tu prends ton M3 Ultra là, qui n'existe pas encore.
Ouais.
Je pense que ça peut vite devenir, sauf s'ils augmentent trop les prix. Mais ils peuvent vite se positionner comme des machines les plus ouais. efficientes énergétiquement qui peuvent faire tourner des modèles de type GPT-4 dans les prochains mois, prochaines années localement. Et ça c'est fou parce que ouais. c'est une guerre de paradigme en fait. Comme si d'un côté, on a parlé de OpenAI tout à l'heure, d'un côté t'as OpenAI qui est en mode non mais nous on y va à coup de GPU A100 de Nvidia chez nous et on maîtrise tout. Et de l'autre côté il y a Apple.
Ouais.
Je te dis tu vas avoir ton Mac chez toi en fait et ton ChatGPT chez toi.
Et si on compare par exemple à la stratégie de Microsoft qui ne contrôle pas tout, ils ont qu'un OS pour gérer les requêtes en fait d'IA. En fait ils sont obligés de passer par le cloud. Donc c'est-à-dire d'avoir des immenses data centers. Avec de la puissance NPU, GPU ou ce que vous voulez, mais sans parler d'entraînement, juste d'inférence, ils peuvent pas compter sur, pour l'instant en tout cas, sur un calcul on device, donc sur le mobile, ils sont obligés de passer par le cloud. C'est vraiment la stratégie inverse d'Apple, et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que Apple allait sans doute offrir un portage au moins partiel de Stable Diffusion sur les puces de la série M. Je pense pas que ce soit. Enfin, j'ai lu ça dans un papier d'analyste, mais apparemment, ils travaillent dessus. C'est une rumeur. Et moi,
on le voit sur GitHub même. Si je dis pas de
conneries. Ouais, c'est possible.
Il y a des contributions d'Apple, ouais.
Et je trouve ça fou que mon Mac et peut-être même mon iPhone puisse avoir des capacités que Stable Diffusion en génération d'image et en traitement d'image.
En local.
Ça pourrait être.
T'as plus de latence, quoi.
Ouais, bah c'est clair.
Enfin, t'as la latence du calcul. T'as la rapidité d'inférence et tout ça.
Oui.
Mais t'as plus de.
Tu gagnes le trajet, t'as quand même le temps de calcul, mais.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que la mémoire unifiée nous fait un peu chier parce qu'il faut l'acheter super cher, ouais. Mais c'est quand même un peu un avantage pour tout ça.
Et non, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça a du sens parce que les ajouts sur la puce M3, en plus, c'est principalement au niveau du GPU. Qui est vachement sollicité quand vous essayez l'IAMA.cpp, voilà, ou tous les projets d'inférence en local, tu vois que c'est ça qui va avoir le plus d'impact en fait sur tes vitesses, sur le nombre de tokens par seconde que tu peux produire. C'est la nouvelle puce de l'IA.
De ce que j'ai vu, les deux trucs qui s'améliorent vraiment, il y a de l'amélioration partout, c'est, tu l'as dit, le GPU et le NPU par rapport au M2 et M1. Et pour moi, c'est pas anodin. Et en fait, je pense que même s'ils communiquent pas du tout, ils sont à fond, c'est même sûr, ils sont à fond sur le sujet pour avoir leur propre stratégie bien différente du reste. Et ça, c'est clairement permis grâce au tout le développement d'Apple Silicon qu'ils n'auraient jamais pu faire avec des puces Intel. Jamais.
c'est clair. En fait, j'avais pas pensé. Il y a un scénario où ils restaient stuck Intel. Parce que franchement, c'est un côté un peu courageux, tu vois, t'as un partenaire de 10 ans, ça fonctionne, tu vois, il y avait des problèmes avec les puces, mais ça marchait bien. Mais en fait, avoir les guts de se dire, on fait l'investissement colossal de développer notre propre truc et que ça paye là maintenant, alors qu'ils n'auraient pas pu prédire tout ce qui allait se passer sur les LLM.
Ouais. Et de ce que j'ai lu, il y a eu des grosses discussions en interne, ils ont jugé ça comme méga risqué, le passage à Apple Silicon. T'avais un mec dédié à ça, au département qui est devenu du coup aujourd'hui un mec super important d'Intel parce que c'est au cœur de leur stratégie. Et ils se posaient plein de questions. Il y avait même, en plus, il y a eu le Covid juste avant qu'ils dévoilent ça. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on reporte parce que les capacités de fabrication pendant le Covid étaient désastreuses. Et honnêtement, je pense qu'ils ont sué un peu. Voilà, je ne veux pas dire l'expression, mais ils ont sué du cul, voilà. Pour le changement, parce que c'est pas le business à la base d'Apple de faire ça. Aujourd'hui, ça nous paraît cohérent. Et moi, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai acheté mon Mac juste avant qu'il passe au Apple Silicon. Je savais qu'ils allaient lancer des processeurs. J'avais pas méga confiance. Je me suis dit, il va être moins bien. Les premières versions vont être moins bien.
Ça aurait été logique.
Non. Mais du coup, j'ai un peu le seum. Mais j'ai un vieux Intel. Mais non. J'ai lu des papiers qui racontent un peu les coulisses de ce passage-là. Fallait un peu des balls pour se lancer dans les Apple Silicon. Et aujourd'hui, ça, c'est sans doute leur principale stratégie de développement.
Leur principal atout. Et on a hâte de voir ce que donnera M3 Ultra sur Bench avec 200 gigas de mémoire.
Juste de voir parce qu'on ne pourra pas l'acheter. Mais...
voilà. Non, clairement, on ne l'achètera pas, mais on lui dira coucou, comme ça, de loin.
Et tapez RISC-V sur Google, dites-moi de faire une chronique dessus, avec grand plaisir.
Ok, alors, pour les élus, on va faire comment, là?
C'est la fin de cette chronique. Oui, mais alors mes notes.
Je crois qu'on a perdu Micode et Mathieu et Tiffany en AVC. non, mais il faut dire.
C'était trop. Non, mais est-ce que c'était trop barbuleux, chat? Ça m'intéresse un peu parce que c'est vrai que j'ai fait des tests aujourd'hui.
Je pense que t'as rattrapé les gens à la fin. Il y a un petit passage à vide.
C'est parce que tu m'as posé des questions.
C'est là où tu sens que la passion est plus forte.
Ouais, on n'avait pas résisté en fait. Mathieu.
Ouais. Si vous voulez, je vous refais un point sur TSMC. Hein, mais TSMC qui, du coup, grâce à Apple, je peux pas m'en empêcher, est passé premier fabricant de semi-conducteurs, alors qu'avant, ça avait toujours été Samsung et Intel. Pas que grâce à Apple, mais aussi par des très bons choix qu'ils ont fait, honnêtement. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, ils soient premiers. Et ils ont des puces partout. Il y a de très grandes chances que vous ayez une puce fabriquée par TSMC.
Et mais moi, je pensais pas qu'il y en avait autant que 80%, c'est quand même...
Ça, c'est ASML.
Okay.
C'est les machines qu'il a 80% du marché. Non, ils ont pas. Je sais plus combien de pourcents ils ont.
Ça marche.
Peut-être 30%, mais c'est déjà énorme.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.